Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Et aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, nous sommes au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, vous, comme moi, sommes royalistes et nous aimons la musique. Pourquoi est-ce que je vous contextualise cela au XVIIe siècle et pas aujourd'hui? Parce que je vais vous parler d'un genre bien particulier que nous avons un petit peu abordé la semaine dernière en parlant de certains musiciens que j'affectionnais énormément. Mais je voulais vous parler d'un genre musical bien spécifique qui est le grand motet. Alors avant de vous parler effectivement de ce grand motet et puis qu'on puisse en écouter certains extraits, je voulais tout simplement vous en parler afin que vous puissiez savoir ce dont il découle, parce que là c'est pas seulement de musique que nous allons parler, c'est aussi d'histoire et bien entendu aussi de politique. Bien entendu, quand on parle de musique au XVIIe siècle, on pense forcément à quelque chose de majeur, à un personnage majeur, c'est le roi Soleil Louis XIV. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler du roi Louis XIV? Eh bien parce qu'en fait, il a passé sa vie à mettre sa vie en scène, finalement. Du coucher au lever et du lever au coucher, c'était le théâtre permanent. Et bien entendu, cela allait aussi avec la musique. Tant dans la musique profane, on peut penser notamment aux jeux qui étaient toujours animés par la musique, que par la musique sacrée qui, elle aussi, était l'un des centres du pouvoir. Parce que, naturellement, dans la journée du monarque, il y avait la messe quotidienne, et là, bien entendu, il y avait la mise en place de cette scénographie, presque, du pouvoir, et qui passait notamment par la musique et par le genre du grand motet, entre autres. Alors, bien entendu, quand on va parler de ça, on va parler d'un endroit en particulier, c'est la chapelle royale du château de Versailles, qui est aujourd'hui toujours bien entendu debout et que je vous invite à visiter, qui a été restaurée en tout cas pour ses extérieurs. Et pourquoi on va parler de cette chapelle royale? Parce que ce sont les musiciens du roi qui vont là-bas se produire, et surtout c'est ce qui se fait à Versailles qui va ensuite irriguer tout le pays, notamment par la figure d'un compositeur majeur. Bien entendu, quand on parle de Louis XIV, on a son pendant, vous savez, il y a quelques grands ministres qui ont existé, et pour la musique, le surintendant, ça a été Jean-Baptiste Lully, un immense compositeur qui était non seulement très très grand musicien, mais en plus, un certain intrigant, il faut bien le dire, c'était un politicien très très fin, et c'est ce qui lui a permis de se hisser à ce poste qui était tellement important que dans toute la France, aucune page de musique ne pouvait être éditée sans son accord. Alors, on peut le regretter parce que c'est vrai qu'il a pu empêcher certains immenses compositeurs, dont je vais un petit peu vous parler après, d'avoir la carrière qu'ils méritaient, mais bon, en tout état de cause, il faut quand même rendre cet hommage-là à Lully, c'est qu'il a pu codifier toute cette musique, et en particulier celle du grand motet. Alors, ces grands motets, alors il y a eu de grands acteurs qui ont pu en mettre en place. Donc là, la semaine dernière, je vous avais parlé de Lalande. Aujourd'hui, je vais vous parler de Campra, de Lully. Il y en a d'autres, Marais, Desmarais, il y en a plein d'autres. D'où ça vient, en fait, tout simplement? Ça vient de, tout simplement, il y avait au début simplement du chant, et qui était accompagné par un instrument qu'on appelait le serpent. Et puis, peu à peu, la musique vocale s'est un petit peu étoffée. On a mis en place la basse continue dans la musique sacrée, qui devient monnaie courante, avec des basses d'archer et d'autres instruments graves, les viols, les violons, violoncelles et bassons, qui remplacent à ce moment-là le serpent. Et peu à peu, par souci de puissance, eh bien, il y a des pièces qui deviennent plus brillantes, avec notamment des instruments-là qui vont être à vent, et avec même les orgues qui vont pouvoir jouer et étoffer tout cela. Et finalement, toute cette codification va se faire pour la messe, c'est ce que je vous disais au tout début. Alors là, c'est la codification extrême. Vous avez dans cette chapelle royale quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous avez un étage. Donc le roi a assisté à la messe depuis l'étage. Donc ce qui se passait pendant la messe, c'est qu'en bas, à l'autel, il y avait la messe qui était faite. Donc là, c'était une messe basse. Et à l'étage du roi, il y avait une autre organisation qui se passait, c'était celle de la musique. Donc là, on avait en place deux types de motets, un grand avec soliste, chœur et instrument, qui durait 20 minutes environ, et un petit motet aux dimensions qui étaient beaucoup plus réduites, qui était également d'un caractère différent, puisqu'il était contemplatif. Il se faisait pendant l'élévation, et à la fin, il y avait une prière finale qui était faite exclusivement pour le roi. Cette prière s'appelle le Domine Salvum Fac Regem. Et alors, là-dedans, c'est là-dedans que prend place ce grand motet. Donc, il y a eu, comme je vous le disais, de très grands maîtres. Donc, le plus spécifique, celui qu'on va retenir en tout cas, parce que c'est celui qui l'a le plus codifié, c'est Lully. Et aujourd'hui, on va en écouter quelques extraits. Je vais vous proposer dans un premier temps une mise en scène assez particulière. Il s'agit d'un psaume. Alors évidemment, ces grands motets étaient souvent rattachés à des textes de la Bible. Celui que je vous propose dans un premier temps, c'est celui qui est tiré du psaume 97, Jubilate in conceptu regis. Et alors vous allez voir ici tout le génie du compositeur de Lully qui se met en place dans cette scénographie typiquement baroque de la chapelle royale de Versailles. Et voilà tout le talent exacerbé de ce Lully magnifique dans cet extrait de ce grand motet qui est là aussi assez extraordinaire. Bon, il est symptomatique de ce que je voulais un petit peu vous montrer, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de scénographie. Alors bien entendu, je ne vous ai pas pris quelque chose d'anodin. À partir du moment où on dit jubilate, il y a cette espèce de joie qui doit être transparente. Et effectivement, quand on parle de musique baroque, il y a toujours cette espèce de jeu avec la danse, avec... Enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais Louis XIV était un grand danseur, donc forcément quelque chose de très enlevé, très aérien, qui va vers les hauteurs. Et il y a ce côté, dans la musique baroque, de sensuel. Gilles Cantagrel, un de nos grands musicologues actuels, dit toujours qu'il y a un penchant naturel du baroque pour la séduction. Et effectivement, quand on écoute ce genre de musique, il y a de la séduction, quelque chose de tout à fait du langage presque joyeux, presque courtois également, mais qui là est dans un contexte purement liturgique. Et donc, c'est effectivement ce que l'on retrouve dans tous ces grands motets que, bien entendu, je vous invite à découvrir. Lully en a écrit d'autres, et je vais d'ailleurs vous en montrer tout à l'heure dans un tout autre caractère. On va continuer à observer ces grands motets-là qui illustrent des textes bibliques. Donc là, on était sur un psaume, je vais donc vous en faire découvrir un deuxième, mais on va tout simplement changer d'ambiance parce qu'on va changer de compositeur. Et on va pas aller chez n'importe qui, on va découvrir ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent un immense musicien qui a eu une très belle carrière lui aussi sous le règne de Louis XIV, qui a été maître de chapelle à la cathédrale de Toulouse avant de devenir parisien. Il s'agit de Campra, Campra immense compositeur qui lui aussi a fait quelques merveilles. Et donc je voulais vous faire découvrir là aussi une illustration de psaume, c'est l'illustration du psaume 60. 1916, dans un grand motet. Donc là aussi, je vous en fais écouter qu'un extrait, bien entendu. Le grand motet, comme je vous le disais en préambule, dure une vingtaine de minutes. Donc là, c'est qu'un petit extrait de 2 minutes. Il s'agit tout simplement du grand motet Notus in Judea Deus. Vous avez remarqué que je parle avec la prononciation à la française, qui était courante à la chapelle royale de Versailles et qui s'est poursuivie jusqu'au 19e siècle à Paris. Et donc, c'est avec cette prononciation-là, ce style-là, qu'on reste donc dans cette mouvance baroque, et là aussi la mise en place du pouvoir royal, donc avec l'illustration de ce psaume 76 par André Campra. André Campra, donc, un immense musicien qui mérite lui aussi d'être connu et reconnu pour ses multiples talents. Ça a été l'un des plus grands musiciens, l'un des plus brillants de ce XVIIe siècle, un petit peu éclipsé bien entendu par Lully, mais ô combien génial. Je vous invite bien entendu à découvrir tous ses autres motets ainsi que le reste de sa musique qui est absolument extraordinaire. Bien entendu, ça sera difficile de ne pas vous parler de son Requiem. Maintenant, nous allons retourner auprès d'un autre compositeur que nous venons d'entendre. Il s'agit de Jean-Baptiste Lully. Et pourquoi est-ce qu'on retourne chez lui? Parce que j'ai envie que maintenant, on aille écouter autre chose, un autre style. Parce que ce que vous avez entendu précédemment, c'était l'illustration de 2 psaumes. Alors imaginez la quantité de ces psaumes qui ont été composés, des dizaines, voire des centaines de pages. Et là, on va aller dans un moment qui est beaucoup plus politique. Il s'agit d'un moment intense dans la vie royale, c'est celui de la mort d'un membre de la famille royale. Alors, pour le coup, on va passer dans un autre registre, bien entendu, qui va être beaucoup plus mortuaire, et je vais vous parler donc du Miserere, qui est un modèle grandiose du grand motet français, qui a été composé donc par Jean-Baptiste Lully à l'occasion des funérailles de la première épouse de Philippe d'Orléans, qui était le frère de Louis XIV. Alors là, ça a été non seulement un grand événement musical, la marquise de Sévigné rapporte que tous les yeux étaient remplis de larmes à l'audition de ce chef-d'œuvre, mais également un événement politique important parce que dans ce genre musical, et grâce à l'effectif aussi qui a été fait, c'était un affranchissement de la monarchie française de la tutelle de Rome. Donc il y a quelque chose là aussi de tout à fait politique, et c'est pour ça que je vous invite à bien avoir en tête que Lully était non seulement un grand compositeur, mais également un fin politicien, bien entendu au service du roi. Mais il y a eu toute cette dimension-là. Alors, ce Miserere est extraordinaire, non seulement par la musique, mais également par l'effectif instrumental qui est convoqué ici. Il y a là de très nombreux violons, des viols de gambe, les théorbes, les flûtes à bec et les flûtes traversières, les hautbois, les bassons, le clavecin et l'orgue qui sont présents. Donc, presque tout l'orchestre baroque est convoqué là pour ce Miserere. Bien entendu, on ne va pas l'écouter en entier parce que, comme vous le savez, le temps nous est compté, mais je vous invite là à faire très attention. Autant dans les motets que vous avez pu entendre, on est dans le baroque qu'on a, j'ai envie de dire, presque péjorativement l'habitude d'entendre, c'est-à-dire quelque chose de très dansant, comme je vous le disais, très, voilà, presque amoureux, presque sensuel. Là, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus grave, naturellement, parce que la musique illustre toujours les propos qui sont tenus. Donc, quand vous avez quelque chose comme Jubilaté tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus virtuose, etc., là, vous avez quelque chose de beaucoup plus intimiste, avec des voix plus graves qui sont convoquées, et en particulier, vous allez le voir, on va être dans l'exercice total de la basse continue, qui se déploiera de manière plus difficilement. En fait, c'est comme s'il y avait cette difficulté dans la marche, presque dans la marche de la mort, qui devait se tenir sous nos yeux. Donc on doit accompagner le défunt dans cette difficulté. Et c'est ce qui se tient ici finalement. Le rythme est bien entendu beaucoup plus long, les sons sont beaucoup plus graves, et vous allez voir que là, la musique baroque est également capable de convoquer certains chefs-d'œuvre. C'est en tout cas ce qu'ici a fait Jean-Baptiste Lully avec le début de son Miserere. Les premières notes de cet extraordinaire Miserere de Jean-Baptiste Lully. Donc voilà, on est dans quelque chose de totalement différent. J'espère que vous l'avez bien saisi. Bon, bien entendu, je suis obligé de le couper, hein. Vous avez bien compris que je ne pouvais pas vous passer tous ces grands motets dans leur entier. C'est d'ailleurs bien dommage. Donc je vous invite vous-même à faire la démarche d'aller les voir. Donc ceux de Lully que je vous ai présentés, ceux de Campra, et bien entendu, je vous ai parlé d'autres compositeurs, que ça soit la semaine dernière avec Delalande et son Tédéum, qui là aussi fait partie de la grande famille des grands motets, Mais il y a d'autres compositeurs extraordinaires que vous devriez découvrir parce que c'était une période extrêmement féconde où les arts étaient au service de la foi et également du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut le garder en tête. Avant de vous reparler un petit peu là de ce qu'on vient d'entendre, voilà, je vous invite à découvrir les motets, par exemple, de Jean-Philippe Rameau, là aussi un compositeur absolument extraordinaire qui a eu une magnifique carrière de musicien et qui a beaucoup de choses à dire d'un point de vue musical, également d'autres, hein. On peut penser à Saint-Cernin de Toulouse, hein, puisque c'est là où je suis aujourd'hui, Joseph Vallette de Montigny, qui faisait la musique qui était de même niveau que celle qui se faisait à Versailles, donc dans la même codification. Donc je vous invite à découvrir tous ces compositeurs-là, afin de pouvoir vous mettre dans l'oreille ces splendeurs qui se faisaient à la messe à l'époque. Donc sinon, on retourne à ces premières notes du Miserere, donc. Là où il me plaît énormément, en tout cas le début de ce Miserere, c'est qu'on est dans une musique, là pour le coup, qui est sans phare et qui est pleinement au service de la liturgie. C'est-à-dire qui, bon, on va au-delà du texte, hein, simplement, qui est mis en musique avec talent. Ça se fait à chaque fois, j'ai envie de dire. Mais là, on a l'intériorité nécessaire à ce type d'événement qui porte finalement la prière, qui peut porter la prière des gens qui sont rassemblés là. Et donc là, c'est pour moi un véritable tour de force qui est mis en place. Et qui là n'est pas un artifice, véritablement, c'est le propre du musicien liturgique d'être capable de faire vivre le texte à ce point. Et là, on comprend les mots de Madame de Sévigné qui disait que les yeux des gens étaient embués de larmes, donc l'émotion du moment, mais également l'émotion de la musique qui là a pu faire des merveilles. Donc je vous invite à découvrir ce Miserere en entier. Et maintenant, il faut que nous bouclions la boucle. Je vous ai dit un petit peu la scénographie de cette messe sous l'Ancien Régime. Donc, il y avait la messe basse en bas et puis toute la partie musicale qui se concluait systématiquement par le Domine Salvum Fac Regem, qui est tiré du psaume 20 et qui, en gros, demande au Seigneur de protéger le roi. Et alors, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'était l'hymne national de la France, en tout cas de la royauté. Alors ça a été extrêmement développé en fait finalement, notamment sous Louis XIII, mais c'est sous Louis XIV, encore une fois, que la chose va être pleinement actée et insérée au sein de l'office. Et donc c'est tout à fait ce qu'on retrouve là avec non seulement le génie musical qui se met en place tout doucement. Alors c'est presque un peu poussif, on pourrait se dire. On est très loin de quelque chose d'éclatant. Aujourd'hui on a notre Marseillaise bien révolutionnaire, bien républicaine, mais à l'époque, il y avait cette espèce de montée en puissance. Vous allez voir qui se met en place tout simplement. Et puis, il y a la floraison de la musique qui va se faire pour évoquer tout simplement et demander au Seigneur de protéger le roi de France. Donc, je vous laisse découvrir le Domine Salvum Fac Regem de Jean-Baptiste Lully. C'est donc sur ces notes et sur cette fin de l'office sous Louis XIV que je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au XVIIe siècle avec ces fameux grands motets que, encore une fois, je vous invite à découvrir. Il y en a de multiples qui existent dans des formes tout à fait diverses et variées et bien entendu tous plus sublimes les uns que les autres. Quant à moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine et on va continuer à parler de ce siècle très particulier qui est le XVIIe siècle et en particulier dans la musique française, puisqu'on a parlé des grands motets, on parlera des petits motets. Et quant à vous, je vous invite également à noter dans vos agendas un rendez-vous important, c'est celui du concert de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Tous les chœurs de la basilique pourront chanter, donc il y aura la maîtrise avec les enfants, le chœur grégorien, le chœur d'hommes ainsi que le grand chœur que j'aurai le plaisir de diriger. J'ai également quelques pièces au grand orgue de la Basilique Saint-Sernin. C'est le samedi 9 décembre à 20h. Prenez vos places sur le site de la Scola, c'est moins cher. Et je serai très heureux de vous y retrouver. Et on pourra échanger, bien entendu, si vous le souhaitez. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.